histoire. Parcours à histoire. Parcours à histoire. Parcours à histoire. Ce parcours s'appelle les 4 légendes de Gany. Il a été inventé par les élèves de la classe de Madame Malfait. Quelques recommandations avant de commencer. Tout d'abord, réglez le volume. La piste couvre l'intégralité du parcours. Si vous avez besoin de vous arrêter, vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause à tout moment et le reprendre. Sur le parcours, des flèches de couleur jaune vous donneront la direction en plus des indications vocales. Vous ne vous perdrez pas. Les élèves vont chercher à travers ces balades sonores comment interagir avec vous à distance. Alors ne faites pas votre timide, écoutez-les. À la fin du parcours, vous pourrez écrire un mot au groupe pour leur livrer votre ressenti. Bonne écoute!
Cela ne vous dit rien.
Quoi ? Cela ne vous dit rien ?
Vous n'êtes pas au courant ?
Gany, c'est pas toujours appelé comme ça. Ce n'était pas une commune avec des êtres humains, comme vous et nous.
Il y a 1200 ans.
Oh là là, on n'était même pas nés.
Il y a 1200 ans, le paysage devant vous
était complètement différent.
Déjà, le ciel n'avait pas les mêmes couleurs.
Avant, quand il faisait beau, le ciel était noir.
Et quand il ne faisait pas beau,
il était d'un bleu étincelant.
Partout au sol, des plantes gigantesques aux formes étranges poussaient.
Et toutes les variétés de fleurs présentes
étaient des fruits appétissants.
La terre était composée
d'argile rouge.
Et on s'en faisait souvent des cataplasmes sur le visage.
Les oiseaux servaient de véhicules aériens.
Et les insectes, de carrosses thermiques.
Regardez autour de vous, tout a bien changé, non ?
Qui imaginerait qu'avant ?
Ici, il y avait des dinosaures.
Et des schtroumpfs.
Quoi ?
Quoi ?
Quoi ?
Quoi ?
Vous ne savez pas ?
Eh bien, il faut vite rectifier cela. Placez-vous devant le portail vert de l'école.
Sur la rue Robert Schumann, anciennement appelée
rue Robert Schumann.
Dépêchez-vous.
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 Retournez-vous le dos du côté du portail.
Et dès qu'on vous dit stop,
vous irez à gauche
et commencerez à marcher
d'un pas lent.
Pour bien écouter ce que l'on va vous raconter.
On vous propose de visiter
quelques vestiges de Strom City qui restent intacts dans la commune. C'est parti, top !
Il y a 1200 ans,
il y avait une famille de 13 Stroms
baptisée les Arts.
Bon, c'est eux qui étaient là en premier
et qui ont peuplé toute la commune.
Jusqu'à arriver au compte
de 105 familles
et 600 habitants.
Les Schtroumpfs habitaient dans de petites maisons.
Les Schtroumpfs avaient des dragons
comme animaux domestiques
qui étaient aussi petits que les Schtroumpfs.
Les dragons leur permettaient de récolter facilement des fruits.
Les fruits fleurs.
Et de la nourriture.
Malheureusement, ils n'existent plus aujourd'hui. Mais sous vos pieds, sous le béton de leur route, entre l'école maternelle et l'école élémentaire, il y a un cimetière de fossiles de dragons schtroumpfs.
On raconte qu'il ne faut surtout pas les toucher.
Car comme pour les momies,
si on s'en approche,
une malédiction
peut s'abattre sur nous.
Vous allez arriver à l'intersection entre la rue Robert Schtroumpfmann et la route Schtroumpf-Fourge. Allez sur votre gauche, rentrez dans le square du Castle Donnington et dirigez-vous tout droit contre le mur du fond. Vous allez découvrir les restes d'habitation de Schtroumpf qui sont conservés ici. Prenez le temps de les regarder.
Est-ce que vous saviez que les Schtroumpfs sont encore en vie ?
Non ?
Non.
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 Non. La famille Habsbourg vit encore. Elle est cachée sous la terre. Bien sûr, aujourd'hui, ce sont les descendants de cette famille qui sont vivants. Des chercheurs ont établi qu'il y aurait certainement une quinzaine de Schtroumpfs encore en vie. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu de chance, les pauvres.
Sortez du square. Premier à gauche, sur la route Schtroumpf-Fourche, en direction du rond-point. Avancez d'un pas lent. On va vous raconter la chute de l'air Schtroumpf. Vous voyez cette rue bruyante de circulation. Il y a 100 ans, une pluie d'obus a envahi le ciel et s'est abattue sur cette route. Une attaque orchestrée par une tribu d'êtres humains venant de Russie, les Gachins. Ils voulaient coloniser Schtroumpf City pour en faire leur commune. Auparavant, il avait déjà eu 9 attaques de la sorte par d'autres groupuscules, mais aucune n'avait réussi. Schtroumpf City résistait.
Malheureusement, cette 10e attaque a été fatale pour la commune. Les Gachnis ont utilisé des machines très évoluées pour combattre les Schtroumpfs et leurs dragons, pour détruire toute la ville. Et cela a marché. Les plantes ont été piétinées, les maisons brisées, la terre retournée. La pollution a envahi la ville, ce qui a achevé les dragons. Le roi des Gachnis a même changé la couleur du ciel, car il ne la trouvait pas à son goût. Il a inversé les couleurs. C'est comme cela que les Schtroumpfs sont devenus bleus, lorsque le bleu du ciel a changé de place.
La famille Habsbourg, qui dirigeait et gouvernait Schtroumpf City, a demandé à tous les survivants de creuser le sol pour construire des habitations souterraines. C'est ainsi que la commune Gachni est née. Il y a une frontière dorénavant entre les Schtroumpfs et l'homme.
Ils feront peut-être une révolution un jour pour retrouver leur vie d'avant et réparer le mal qui leur a été fait. Personne ne peut le prévoir. Tu arrives près du rond-point. Reste sur le trottoir de gauche. Quand tu arriveras à sa hauteur, arrête-toi pour le contempler.
Ce rond-point était anciennement le château des premiers habitants Schtroumpfs. Les Habsbourg. Tout le monde passe autour de lui en voiture, sans le savoir. Nous tournons autour d'un monument historique qui nous rappelle qu'ici vivait une espèce différente qui a quasiment disparu par notre faute. Ici, elle ne revient pas aujourd'hui parce que nous construisons sans cesse au détriment de la nature. Il n'y a pas que des Schtroumpfs qui disparaissent.
Nous, nous croyons qu'il est possible de vivre en harmonie et dans le respect de la faune et de la flore.
Cela demande des efforts.
Et beaucoup de travail à faire.
Mais on peut le faire ensemble. Vous ne croyez pas?
Vous n'avez pas envie de revoir les Schtroumpfs en vrai?
Ça, c'est le bruit du réveil de Pierrot Pasteur, personnage principal de notre histoire.
Une figure éminente de Gagny il y a plusieurs tic, années.
Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac.
Ce son résonne partout dans la commune, à des heures différentes, tous les jours. Ce son nous rappelle cet homme tragiquement disparu. Une histoire extraordinaire qu'on vous raconte maintenant.
Tout d'abord, nous vous demandons d'aller sur la rue de Paris. C'est très simple. Continuez de marcher sur le trottoir où vous êtes et prenez la première rue à gauche. Une fois que vous y êtes, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux. Laissez ce son vous envahir. La peur arriver.
Tic, tac, tic, tac, tic.
Ouvrez les yeux, maintenant!
Descendez la rue de Paris d'un pas lent. Restez sur le trottoir de gauche. Vous allez vous arrêter devant le centre socio-culturel. Un bâtiment blanc avec des barreaux aux fenêtres.
C'est ici que tout a commencé. Avant, ce n'était pas un centre socio-culturel, mais une salle immense de jeux vidéo.
Il y avait une femme qui était là tous les jours.
Elle était championne en titre de tous les jeux, sans exception, indétrônable.
Tout le monde la jalousait d'en gagner, car personne n'arrivait à la battre. Surtout les hommes qui ne comprenaient pas comment une femme pouvait,
pour une fois, être aussi forte.
Elle avait d'ailleurs des bras immenses, des biceps d'acier et des doigts en forme de petits boudins, tellement ils étaient musclés à force de jouer. Bref, le 15 septembre 1981, enceinte de 9 mois tout pile, la peau du ventre bien tendue, Madame Pasteur défendait un championnat de Super Mario Bros.
Ready? 3, 2, 1, go!
Contre Louis la souris.
Camille la traîne.
Maëlle la belle.
Maëly l'abeille.
Aloïs la saucisse.
Tout son corps tremblé d'effort.
Mais elle ne faiblissait pas.
Il fallait qu'elle termine la première. Qu'elle dépasse la ligne d'arrivée. 4, 3, 2, 1.
Bravo!
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 Un autographe, madame!
Elle venait de gagner son 43e championnat quand elle relâcha la pression.
Ah, qu'est-ce qui m'arrive?
Je pense que c'est votre bébé sous votre nombril.
Je crois que le bébé veut sortir.
Mais comment vous le savez?
Bah, écoutez, il nous parle.
Maman, je veux jouer, maman, je veux jouer. Oui, j'ai envie de jouer.
Oh, c'est bien le fils à sa mère, ça. Prenez garde, les concurrents. La relève arrive.
Et c'est comme ça que Pierrot Pasteur est né.
Dès que vous le pouvez, traversez la rue pour pouvoir rejoindre le trottoir d'en face. Allez au numéro 57, La Chaumine. Nous continuons de vous parler pendant votre déplacement.
C'est au 57 rue de Paris que Pierrot Pasteur et sa maman se sont installés. C'est une maison colorée, jolie, avec un portail vert.
C'était un élève solitaire qui ne supportait pas qu'on lui parle. Il aimait le silence de sa mère.
Dès qu'il sortait de l'école, il se précipitait à la salle de jeu, ou chez lui pour jouer avec de nouveaux jeux.
Il était devenu plus fort que sa mère, si bien qu'il avait commencé en parallèle de ses études à devenir testeur de jeux vidéo. Comme il y avait beaucoup d'engouement pour les jeux vidéo et que les gens devenaient complètement accros, la salle de jeu a arrêté. Elle était fréquemment cambriolée. C'est pour cela qu'il y a des barreaux aux fenêtres. Et elle est devenue un centre socio-culturel.
Mais revenons à Pierrot Pasteur. En l'an 2000, quand il a eu 20 ans, il s'est passé quelque chose d'étrange au 57 rue de Paris à La Chaumine. Une voix s'est mise à parler à Pierrot Pasteur. Elle n'arrêtait pas de lui dire
« Pierrot, ne fais pas comme moi, décroche. Tu vas disparaître, je te dis, décroche. »
Bah, j'ai cru que quelqu'un me parlait. Bah, comme si c'était possible.
Pierrot était tellement habitué à entendre des bruits, des mots, des musiques toute la journée, qu'il ne faisait plus vraiment de différence entre le monde réel et le monde virtuel. Il ne s'était même pas rendu compte. Sa mère avait disparu. Et c'est elle qui tentait désespérément d'attirer son attention à sa disparition à elle, mais aussi la sienne, qui arrivait à grands pas.
Dans 24 heures, tu seras comme moi, transparent comme du verre.
Bah, c'est marrant, j'entends la voix de ma mère.
Et une journée plus tard, Pierrot Pasteur commença à changer de couleur. Il n'était pas transparent encore, disons comme un peintre fait de l'aquarelle. En mélangeant de la couleur et de l'eau, Pierrot Pasteur était, disons, très mouillé, très dilué. Ses couleurs n'avaient plus d'éclat. Quand il s'en aperçut, il courra jusqu'à la caserne des pompiers.
Traverser la rue pour rejoindre de nouveau
le trottoir de gauche. Descendez la rue de Paris jusqu'à apercevoir la caserne des pompiers à gauche. Mettez sur pause l'enregistrement, tant que vous n'êtes pas devant.
D'abord, Pierrot Pasteur a crié à l'aide aux pompiers. Mais ils étaient tous partis éteindre un feu très loin. Alors, personne n'est venu l'aider. Vous voyez le bâtiment juste à côté? À gauche. Cela exerçait une doctoresse totalement étrange. Quand elle recevait ses patients, au lieu de leur serrer la main pour dire bonjour, elle leur mettait une claque. Bref.
Pierrot est entré pour se faire guérir. Au lieu de l'accueillir, il l'a ramené à la porte en lui disant au revoir. Si bien que Pierrot se dit que finalement, il ne devait pas être anormal.
Ce n'était qu'une impression. Il était certainement fatigué. Voilà tout.
Descends maintenant la rue de Paris jusqu'à voir à gauche la mairie. Tu tourneras à gauche sur la place.
Il rentra chez lui et se mit à jouer. Il ne se rendit pas compte que d'heure en heure, il devenait invisible, transparent comme du verre. Comme l'avait prévenu sa mère, il s'arrêta de jouer, alla dehors et salua des gens.
Ah, c'est moi, Pierrot Pasteur.
Personne ne le voyait. Il avait du mal à y croire, mais plus les jours passaient, plus il prenait conscience de la réalité. Mais surtout, il rencontra sa mère.
J'ai essayé de t'avertir. Mais tu ne m'as pas répondu. Tu es resté scotché tous les jours sur les jeux vidéo. Et toutes les nuits. Si bien que tu es devenu invisible au monde qui t'entoure. Si tu avais choisi la lecture comme activité, tu te serais reconnecté au réel.
Nous sommes condamnés
à errer ici toujours.
Depuis quelques années, le nombre de disparitions a augmenté. Nous vous racontons cette histoire pour vous prévenir. Avez-vous lu dernièrement un magazine, un livre, une BD? Un gagné, si on ne lit pas, on disparaît. Ne l'oubliez pas. Alors mettez de nouveau sur pause l'enregistrement. Précipitez-vous à la médiathèque. Ça tombe bien, elle est juste à côté de vous sur votre gauche. Profitez-en pour aller chercher un livre.
Tremblez de peur, n'est-ce pas?
Tant mieux. Vous êtes dans l'ambiance de notre histoire qui donne la chair de poule. Si elle est si effrayante, c'est parce qu'elle est bien réelle. Nous l'avons tous vécue. Nous, qui allons vous la raconter.
Nous ne pouvons pas vous donner notre identité, car ce que nous allons vous dévoiler est un secret.
Attention, ce secret, il faudra bien le garder. Ne le dire à personne.
Autrefois, au 5e siècle d'Angani, un célèbre scientifique du nom de Docteur Maléfique a fabriqué une invention extraordinaire et avant-gardiste pour son époque. Une créature très méchante, presque démoniaque. Cette chose ressemblait à un bonhomme tout gribouillé de noir, comme un dessin d'enfant. Il changeait constamment de forme, comme un dessin d'enfant. Il était rapide, comme éclair. Docteur Maléfique, qui était quelqu'un de très solitaire, se baladait toujours avec ce monstre dans les rues de Gany. Il s'amusait à faire peur à tous les habitants. Il leur criait dessus, leur faisait des croche-pieds, leur disait des mots qui leur font mal à l'intérieur.
Mais à force d'être terrorisés,
les gens ont imaginé un stratagème
pour éviter Docteur Maléfique de nuire.
À partir de ce moment, Docteur Maléfique a construit un bâtiment souterrain sous le parking de l'église pour ne plus être vu par qui que ce soit. Comme il se laissait dévorer par sa colère, il transforma son monstre en esprit invisible.
capable de contrôler tous les esprits des habitants de Gany.
On raconte qu'il est devenu méchant à cause d'un chagrin d'amour qui l'a complètement retourné. Celle qui l'aimait lui aurait dit
« Je ne veux pas de toi, parce que tu as un gros nez, des petits yeux, des cheveux de poney et une haleine de cachalot. »
Si nous vous en parlons aujourd'hui, parce qu'ils sont toujours là, lui et la chose.
Attention, il vous observe là-haut sur le toit de la médiathèque.
Il s'est déplacé devant la mairie. Il avancera devant vous. Vous devez prendre à gauche sur la rue de Paris. Marchez vite, sans vous arrêter.
Nous allons vous donner des conseils pour que la chose ne pénètre pas dans votre esprit. Il faut que vous gardiez votre âme d'enfant. Elle est peut-être très enfouie. Alors réveillez-la. Dites-lui, tu as assez dormi toutes ces années. Maintenant, tu dois revenir. La chose n'aime pas les gens qui s'amusent, qui sont heureux et pleins de vie. Vous comprenez ?
Nous allons vous demander de faire des choses. Ne réfléchissez pas, ayez confiance en nous. D'abord, faites un sourire énorme sous votre masque, tout en continuant de marcher d'un pas rapide. Descendez la rue de Paris. C'est bien.
Oh, ce n'est pas suffisant.
Le méchant esprit accélère. Votre joie n'est pas assez grande.
Vite, il approche.
Faites vite, tout de suite, une grimace. La plus vilaine et la plus drôle à quelqu'un que vous voyez et que vous ne connaissez pas. Vous ne devrez plus bouger en faisant votre grimace pendant 5 secondes. C'est top.
1, 2, 3, 4, 5.
Ouf, vous avez eu chaud. Il s'est caché, il a eu trop peur.
Mais c'est pas fini. Pour écarter tout danger, vous devez aller jusqu'à la place de l'église. L'église Saint-Martin. Ne vous inquiétez pas, nous vous escortons jusqu'à là-bas et continuez à faire tout ce qu'on vous dit. C'est bien compris. Prenez la marche et descendez tout en bas de la rue de Paris. Il faut vous partager votre joie maintenant, sinon il va vous attaquer de nouveau.
Ah, il arrive.
Vite, vite. Arrêtez-vous devant la première boutique que vous voyez.
Vite.
Levez les bras en l'air.
Mettez-vous en face de la vitrine.
Sautez sur place. Toujours les bras en l'air. Et vous devez danser frénétiquement.
Toujours devant la vitrine.
Mettez-y du cœur et de la passion.
À vous.
Vous allez vous faire rattraper si vous n'êtes pas dynamique.
Allez, tapez des mains. Mettez les hanches à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Tapez du pied sur le sol.
Faites le mouvement des vagues avec votre corps.
Si des gens vous regardent et rigolent, c'est bien.
Vous réussissez.
Continuez.
La chose rétrécit.
Ouf,
vous avez eu encore chaud.
Il était à deux doigts de contrôler votre esprit.
Il allait vous attraper avec ses griffes invisibles.
Vous alliez devenir un pantin.
Il est toujours derrière vous. Pour le semer définitivement, avancez jusqu'à l'église Saint-Martin.
C'est simple, il vous suffit de continuer et descendre la rue de Paris.
Marchez à une allure rapide et constante. Riez fort sous votre masque pour offrir votre rire aux autres.
Très fort, encore plus fort.
Arrêtez de rire.
Reprenez votre souffle.
Vous êtes incroyable. La chose devient minuscule.
Vous allez apercevoir sur votre droite une place avec l'église et un parking.
Faites un gros câlin à un arbre, n'importe lequel.
Mettez vos bras autour de l'arbre.
Ne bougez plus. Respirez fort.
Envoyez de l'amour.
Les racines de l'arbre sont directement en lien avec le bâtiment souterrain du docteur Maléfique.
Vous allez le faire changer.
Continuez. 5, 4, 3, 2, 1.
Vous êtes sauvés!
19 mai 1984.
Quelqu'un qui connaît encore quelqu'un a été témoin d'une scène extraordinaire. Ici, à Gagny, sur le parking de l'église de Saint-Martin.
Un petit garçon de 6 ans qui s'appelait Tom Loharatabuba jouait tout seul avec des pierres et des cailloux. On ne sait quelle histoire. Un enfant de 6 ans qui joue tout seul à côté de la route.
Et pourtant, c'est la vérité. Il était bien seul ici.
Et sa mère n'arrêtait pas de l'appeler pour qu'il revienne à la maison.
Tom, je vais pas passer toute ma journée à te chercher. Et pousser l'heure de manger.
Tom, mon petit Tom.
À Gagny, personne ne s'inquiétait. Tout le monde avait l'habitude d'entendre la mère de Tom l'appeler, si bien que personne ne l'aidait à le chercher.
Oh Tom, il aime fuguer ce garçon.
Vous inquiétez pas, madame. Vous allez leur trouver votre fiston. Il doit pas être bien loin.
Mais le 19 mai 1984, à midi 26, elle ne revit plus jamais son visage.
Placez-vous sur le parking de l'église. Vous devez chercher un rond rouge sur le sol et vous placer à côté. Attention!
Ne mettez surtout pas une partie de votre corps dessus.
C'est hyper dangereux.
On va vous expliquer pourquoi.
Il s'agit d'un portail temporel. On ne sait pas quand il est apparu. Il a peut-être été toujours là. Nous sommes trop petits pour le savoir. Ce qu'on nous a appris, c'est que ce portail, lorsqu'on saute dedans, nous ramène dans le passé et parfois extrêmement loin. C'est ce qui est arrivé à Tom.
Pour que vous soyez en sécurité, on va vous demander de faire un test de champ électromagnétique. Prenez quelque chose au sol, à côté de vous. Une pierre, un caillou, une herbe, un bout de bois.
Rapprochez-vous du portail sans le toucher.
Vous allez lancer dedans votre objet.
Si de l'électricité apparaît autour
et le fait voler, partez en courant.
Sinon, restez à côté. Vous ne craignez rien.
Allez-y, tentez l'expérience.
Vous saviez que Tom n'est pas un cas isolé,
qui a eu plusieurs disparitions comme la sienne.
On raconte que tous les 100 ans, quelqu'un disparaît à Gagny. Mais comme les volcans ne sont pas constants, ce portail non plus. Le risque est toujours là, présent. C'est pour cela que nous faisons fréquemment des tests.
Comme il n'y a pas de champ magnéto-électrique, vous pouvez appuyer au milieu du portail. Il y a un bouton invisible qui désactive le portail. Pour plus de sécurité, faites-le et ne bougez plus. Vous devez maintenant prononcer une formule magique.
Patatouf ! Patatras !
Ça va mieux, hein? Maintenant, ne bougez plus. Imaginez cette place complètement déserte. Un petit garçon, un peu lunaire, qui joue en parlant et en faisant plein de mouvements rigolos. Le petit garçon s'approche du portail sans faire attention. Le petit garçon saute dans le portail pour s'amuser. Son corps est soudain encerclé d'un rayon jaune qui crépite. Ses pieds ne touchent plus le sol.
Ses bras sont raidis par la douleur. Il hurle, mais personne ne l'entend. Même pas sa mère, qui s'est bien trop éloignée pour le chercher. Il perd connaissance. Soudain, son corps se couvre de poils épais et longs, de couleur marron. Ses habits se déchirent, ses muscles gonflent, sa tête se métamorphose. Il tombe à terre, en dehors du portail. Il n'est plus humain. Tom a laissé place à un singe.
Avancez doucement vers rue de la Beauvoir. Il s'agit de la première rue à droite.
Il se relevait péniblement. On raconte qu'à ce moment précis, Tom pensait encore avec son cerveau d'enfant.
Il n'y avait que son apparence qui avait changé,
mais il ne pouvait plus parler le français. Plus criait son désespoir.
Ce qui sortait de sa gueule d'animal, c'était les piaillements d'un singe. Il regarda ses bras, leur apparence tout poilue.
Regarde sur le côté droit du mur que tu longes. Tu as trouvé des poils de singe dedans. Depuis tout ce temps, ils ne se sont pas désagrégés. Les habitants de Gagny les laissent au sol pour que personne n'oublie ce qui s'est passé.
Revenons à l'histoire.
Il essaie de crier de toutes ses forces.
Maman, 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 je suis là, aide-moi.
Mais on n'entend que des hurlements. Personne n'est là. Et Tom, il a terriblement mal aux jambes. La transformation l'a fatigué. Il peine à se déplacer. D'un coup, il trouve une pierre calcaire. Il y en a pas mal dans le coin. Il a une idée. Il va écrire ce qui lui arrive. Forcément, quelqu'un lui viendra en aide. Regardez sur le mur de gauche. On peut lire « Alidée, moi, Tum ». Tout le monde pense que c'est lui qui a écrit ça. Il y a des fautes, bien sûr, mais il n'avait que 6 ans. Est-ce qu'on écrit bien à son âge? Et puis, on dit aussi qu'à partir de cet instant, son cerveau a vrillé. Ce qui restait de Tom dans le singe a disparu. L'animal a pris le dessus. Une personne est apparue au début de la rue. Et Tom, effrayé, a pris la fuite. Là, tout s'est précipité. De nouveau, des rayons jaunes l'ont encerclé. L'ont fait voler au-dessus terre, jusqu'à la cascade. Plus de poils, mais des écailles. Le vert a dissipé le marron. Sa peau molle s'est endurcie. Une mâchoire énorme avec 134 dents lui poussa sur le visage. Tom se transforma en une sorte de dinosaure préhistorique. Un Mosasaurus de 18 mètres de long. Attiré par l'eau, il se précipita à côté de la cascade.
Tom, non, ne pars pas!
La personne qui avait couru à son secours, c'était sa mère. On dit que les mères sentent quand leurs petits sont en danger. C'est instinctif. Elle savait. Elle avait compris.
Elle avait compris que derrière les traits
de cet animal terrifiant se cachait son fils, son Tominou d'amour.
Elle dit qu'il s'est arrêté.
Qu'il l'a regardé. Une larme a coulé de son visage.
Elle a compris qu'il ne resterait pas à Gagny.
Qui pourrait l'accepter comme cela? Comment vivre avec cette différence de taille?
Comment vivre avec cette différence de taille?
Comment vivre avec cette différence de taille? Puis il est tombé dans la cascade pour disparaître à tout jamais.